Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de la LEP.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle chronique de la LEP avec Muriel qui est là encore aujourd'hui. Bonjour Muriel.
Bonjour à tous.
Et un invité, Jean-Luc, ici présent, bonjour.
Bonjour.
Alors Muriel, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on continue et on finit notre cycle d'émissions sur les oiseaux. On avait parlé des rapaces la dernière fois et là on va axer sur une espèce en particulier puisqu'on a un spécialiste lausérien parmi nous. Pour commencer, Jean-Luc, tu es bénévole de la LEP ?
Déjà depuis 2009 lors de mon arrivée en Lozère et donc bénévole au sein de l'association et surtout spécialisé sur les rapaces et notamment les busards.
D'accord. Donc est-ce que tu peux nous présenter le busard cendré en particulier puisque c'est celui-là je pense que tu suis particulièrement.
Alors le busard cendré en Lozère, c'est un oiseau qui est nicheur. Il y a deux espèces de busards qui nichent en Lozère, le busard Saint-Martin et le busard cendré. Ils ont comme spécificité d'avoir ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que le mâle est très différent de la femelle. Les mâles sont gris, avec le bout des ailes noires, et les femelles sont brunes, avec le croupion blanc. Alors, il n'y a aucun rapport avec les buses, ce sont des rapaces donc d'une envergure d'environ 1 mètre, ça c'est à peu près la même taille que la buse, mais au niveau peau, ils sont beaucoup plus légers, puisque le mâle de busard cendré fait entre 250 et 300 grammes, et la femelle fait environ 400 grammes. Ils ont un mode de chasse très particulier, puisqu'ils planent au ras du sol, à une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres du sol. Et ce mode de chasse leur permet de détecter tous les mouvements au niveau du sol pour capturer leurs proies, qui sont principalement des petits rongeurs, et accessoirement des lézards, et aussi des criquets, des grandes sauterelles. Donc le busard cendré est un oiseau qui est migrateur, c'est-à-dire qu'on ne le trouve pas chez nous en hiver. Il quitte la Lozère durant le mois de septembre, il va jusqu'en Afrique. Et il revient chez nous à compter du mois d'avril. Et l'autre spécificité des busards, c'est qu'en fait ce sont des oiseaux qui construisent leur nid à même le sol. Alors que tous les autres rapaces construisent leur nid dans des arbres, dans des falaises, eux le construisent à même le sol. Et donc les pontes démarrent généralement durant la deuxième quinzaine du mois de mai jusqu'à début juin. Et donc il y a un cycle de reproduction qui dure grosso modo deux mois, puisque l'incubation dure un mois. Et à partir des éclosions, les jeunes, les poussins sont volants au bout d'un mois.
D'accord. Tu parlais de la différence entre buse et busard, enfin bien se rendre compte que c'est pas la même chose, notamment au niveau du vol, puisqu'on les voit souvent en vol la plupart du temps. C'est vrai que le busard est beaucoup plus léger. Enfin moi, en tout cas, quand je vois un busard, j'ai l'impression que c'est un petit jouet, vous savez, comme les oiseaux en bois qu'on pouvait mettre au-dessus des berceaux puis qu'on tire avec une petite ficelle. Voilà. Enfin, est-ce que toi, tu as des astuces peut-être pour reconnaître facilement un busard par rapport à une buse?
Oui, ils sont beaucoup plus fins, ils ont un vol beaucoup plus léger, souvent beaucoup plus près du sol, alors que la buse, qui est plus grosse, qui approche le kilo, elle chasse souvent à l'affût, donc posée sur des piquets, sur des arbres, alors que les busards, qui peuvent aussi bien sûr se poser sur des piquets, mais ils aiment bien aussi se poser même le sol. Leur mode de chasse, c'est plus de 90%, c'est en vol. Donc ils sont capables de couvrir des surfaces très, très importantes. Ils peuvent s'éloigner à plus de 8 km de leur nid pour chasser.
Voilà, donc surtout au niveau de l'observation du comportement, on peut... Déjà, si c'est gris, c'est un busard, c'est voilà. Pas une buse. Mmh. Et si c'est posé sur un piqué, c'est préférentiellement une buse, quoi.
Ouais.
Sans généralité, quand même. Du coup, tu disais qu'il était migrateur. Est-ce que l'été, il est présent partout en France ?
Alors non, il est présent uniquement dans certaines régions. Il y a trois principaux bastions en France. Il y a le Languedoc-Roussillon avec l'Auvergne. Donc en zone méditerranéenne, dans ces zones-là, les nicheurs surtout dans les garrigues. L'autre bastion se trouve dans le centre-ouest, notamment comme département les deux Sèvres. Et après, c'est le nord-est avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et donc c'est hormis le sud de la France, où on trouve pas mal de nicheurs au milieu naturel, notamment dans les garrigues. Ailleurs, il établit son nid presque exclusivement dans les cultures, que ce soit des céréales ou des parcelles fourragères.
D'accord. Et alors, comment se passe la reproduction, justement? Est-ce qu'ils restent en couple? Est-ce qu'ils sont plutôt grégaires à se rassembler? Est-ce qu'il y a une parade? Comment ça se passe?
Oui, bien sûr. Comme chez tous les rapaces, il y a des parades qui sont assez spectaculaires chez les busards, avec notamment des vrilles et des crochets, qui se passent souvent très haut dans le ciel. Et là, la particularité du busard cendré, c'est qu'il est semi-colonial. Donc à certains endroits, plusieurs couples vont pouvoir nicher sur le même site. Ici en Lozère, on a parfois des endroits où sur une grande parcelle, on peut trouver 4 ou 5 couples, même si c'est quand même assez rare. Mais on trouve aussi des couples seuls.
D'accord. Est-ce que les couples sont fidèles d'une année à l'autre ?
Alors ça, c'est difficile à savoir. Dans l'ensemble, il semble que non. Il y a des études par rapport à ça qui sont effectuées par le CNRS, puisqu'il y a eu à la fin des années 2000, entre 2004 et 2007, il y a eu une opération de marquage à l'air sur les jeunes busards qui a permis par la suite de les identifier. Et donc actuellement, on est en train de récupérer pas mal d'informations
grâce à cela. D'accord, puisque le Grand-Duc, par exemple, ou le Faucon Pèlerin sont fidèles...
Voilà.
À vie, oui. Souvent, au niveau des couples. D'accord. Et alors, la parade, on peut l'observer quand? Parce que tu disais que c'était assez spectaculaire, ça doit être sympa à voir. Il y a du passage de proie,
Il y a des passages de proie en vol. Et en fait, la plus spectaculaire, c'est le mâle qui profite, quand il fait beau, d'une ascendance thermique qui monte très haut dans le ciel. Et quand il est, qu'on ne voit plus même avec une paire de jumelles qu'un tout petit point, là, il commence à faire des crochets, des vrilles, des ressources, tout en faisant quelques petits cris. Donc souvent, on va entendre les cris qu'on connaît bien. On va savoir qu'il y a un oiseau qui est en train de parader au-dessus de nous, mais dans le ciel bleu, il va falloir attendre des fois plusieurs minutes que cette parade se développe, parce que progressivement, il va se rapprocher du sol. Ils font cette parade souvent parce qu'ils ont repéré une femelle qui est près du sol. Et donc souvent, on va repérer le mâle quand il va se rapprocher du sol et qu'il va rentrer en contact avec la femelle.
D'accord. Donc au début, parade tout seul et ensuite à deux.
Voilà. Okay. En fait, les mâles arrivent souvent les premiers sur les sites et ils font ces parades très acrobatiques pour attirer les femelles de passage.
D'accord.
Et donc ça a lieu à partir du 15 avril jusqu'à la mi-mai.
D'accord. Ouais, c'est marrant parce que dans les émissions précédentes, on parlait surtout du chant qui permettait aux mâles d'attirer les femelles. Et là, pour le coup, pour le busard, c'est pas du tout ça, c'est plutôt la parade.
Voilà.
D'accord.
Ça, c'est probablement l'explication de son plumage gris-noir avec un peu de blanc. Parce qu'en fait, avec les battements d'ailes très haut dans le ciel, pour un autre rapace, ça doit faire des flashs blanc-gris avec un peu de noir qui doit être repérable de loin.
D'accord. Ok. À chacun sa stratégie.
Voilà.
D'accord. Et du coup, une fois qu'ils sont installés en couple, on va dire, combien de temps avant l'installation sur leur place de nidification
Ça peut aller très vite, surtout s'il y a pas mal de proies, que les densités en rongeurs sont importantes. Ça peut aller très vite puisque le nid, c'est pas grand chose. C'est un amas de brindilles, d'herbes sèches, de petites branchettes. Rien à voir avec un nid imposant d'un milan ou d'un aigle.
D'accord. Et du coup, ils font combien d'œufs à peu près?
Ils en pondent généralement de 3 à 5.
D'accord. Et après, tous les jeunes arrivent à maturité ou...
S'il y a suffisamment de ressources alimentaires, oui, mais la particularité justement de ces nids au sol, c'est que ça pose beaucoup de problèmes. Le premier c'est un problème mais qui est naturel, c'est la prédation, par tous les prédateurs terrestres qu'on peut imaginer, comme le renard, blaireau, fuine, martre. Bon, proche des villages, c'est vrai qu'on a des craintes aussi par rapport aux chats et aux chiens, qui sont susceptibles aussi d'exercer des prédations sur les nids. Puis après, il y a aussi la prédation aérienne qui peut s'exercer au stade petit poussin et au niveau des œufs par des oiseaux comme les milans.
D'accord. Et quand la femelle est sur les œufs, est-ce qu'elle peut rester stoïque, je pense, comme le faucon pèlerin par exemple, et là être du coup très très vulnérable?
C'est sa stratégie, c'est-à-dire de ne pas bouger. Et généralement, à part quelques cas exceptionnels, ça marche bien.
D'accord.
Sauf si c'est un prédateur terrestre qui s'approche trop d'elle. Mais elles ont une distance de fuite, puisqu'elles sont bien cachées par la végétation, qui peut être inférieure à 2 mètres.
D'accord.
Donc même un renard qui passe 1,50 m, s'il ne s'approche pas plus, il ne détecte pas le nid, la femelle ne s'envole pas.
D'accord, ok. Et au niveau de son statut, du coup, c'est ce qu'on parlait là des risques naturels, mais est-ce que c'est une espèce en danger? Est-ce que c'est une espèce protégée?
C'est une espèce qui est protégée et en danger, en déclin au niveau national. Si on prend l'exemple de la Lozère, au début des années 2000, on avait une estimation de 50 à 90 couples, et aujourd'hui, on est passé en dessous des 40 couples. Donc c'est une espèce qui décline selon les régions, dans certaines plutôt lentement, dans d'autres régions assez rapidement.
D'accord. Et on a une explication à ça?
L'explication, elle est simple, c'est qu'au niveau national, on a environ 80% des nicheurs qui sont dans les cultures. Et quand il n'y a pas d'équipe bénévole pour repérer les couples, puis les nids, contacter les agriculteurs, les exploitants des parcelles et leur proposer des protections des nids. La grosse majorité des nids sont détruits accidentellement lors des travaux agricoles, que ce soit dans les céréales, où, par exemple ça va être les orges qui sont moissonnées plus tôt que les blés, et dans les parcelles fourragères. De toute façon, les nids à peine établis, les pontes à peine effectuées, les faucheuses commencent, et les nids sont systématiquement détruits.
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des moyens, là? Quels sont-ils? Enfin, tu parlais de bénévoles, justement, qui vont sur le terrain. Comment faire pour éviter, justement, que les petits, les œufs, les poussins ou les adultes passent dans les moissonneuses?
Il faut des moyens humains très, très importants. Il faut une forte présence sur le terrain à partir de la mi-avril pour repérer les couples. Ça demande pour chaque nid souvent plusieurs dizaines d'heures de présence pour bien localiser le nid. Est-ce que dans une parcelle, qu'elle soit fourragère ou une céréale, il faut réussir à distance à le localiser très précisément. Ensuite, identifier donc l'agriculteur, lui proposer, quand c'est dans des parcelles fourragères, c'est une méthode assez quand même un petit peu lourde, puisque ça, s'agissant de nids avec des œufs, on a un gros risque d'abandon du nid par la femelle. Si on fait le même que dans les céréales, où les céréales, souvent, c'est un tout petit carré qui est demandé à l'agriculteur. Là, en fait, suite à des années d'expérience, on s'est rendu compte qu'il fallait laisser un carré non fauché de 10 mètres sur 10.
Donc ça fait une grosse perte pour l'agriculteur?
La perte, oui, elle est réelle, comme c'est de l'herbe. Bon, on peut relativiser, c'est moins important dans des céréales. Je pense, suite à de nombreuses discussions avec les agriculteurs, je pense que la gêne est plus dans le maniement des faucheuses. Donc il faut, dès qu'on a leur accord, il faut que nous allions jalonner. On essaie des fois de descendre à 80 mètres carrés pour minimiser la perte, mais si on descend en dessous, on a de forts risques d'abandon par la femelle. Et après avoir mis ces jalons, on demande à l'agriculteur qu'il nous prévienne le jour de la fauche. Parce que, dans l'idéal, avant le soir, il faut qu'on ait mis une protection autour du carré non fauché pour éviter que les prédateurs terrestres rentrent dans le carré. Parce que dès que c'est fauché, tous les agriculteurs nous le disent, on le voit par nous-mêmes, renards et autres prédateurs naturels en profitent pour venir dans ces parcelles. Donc un carré qui n'est pas fauché, il faut qu'on le protège.
D'accord. Et comment ça se passe? C'est bien accueilli de la part des agriculteurs? Le dialogue est bon? Puisque finalement, là, c'est un besoin de collaboration entre ornithologues et agriculteurs pour que ça se passe bien?
Eh bien, dans l'ensemble, ça se passe bien, même très bien, puisque depuis 2009, on est à pratiquement une trentaine d'agriculteurs contactés, et avec plus de 90% de ces agriculteurs qui ont eu un accueil très, très positif par rapport à nos propositions de protection. Donc ça se passe bien.
Donc c'est un super exemple de coopération.
Voilà, oui, oui, oui.
Et sachant que finalement, enfin, tu disais que le busard mangeait des campagnols, des rongeurs, finalement c'est une espèce alliée de l'agriculture aussi?
Absolument, oui, oui. C'est en fait, les études qui ont été faites montrent que pour une famille de busards, en partant du moment de son installation jusqu'à l'envol des jeunes, c'est environ 2000 petits rongeurs qui vont être consommés dans un rayon de quelques kilomètres.
D'accord, donc un super exemple de moyens de protection réussis et de collaboration entre naturalistes et agriculteurs. C'est bien parce qu'on entend parfois des exemples un peu moins réussis. Est-ce qu'il y a d'autres menaces qui pèsent sur le busard, à part la destruction directe des nichés comme ça?
Il y a des études en cours sur les busards, notamment au niveau des intoxications. Donc là, sont des études qui sont faites actuellement suite à des prélèvements d'œufs, donc sur des coquilles, pour voir ce qu'on va retrouver comme substance chimique dans les œufs, dans les embryons. Et donc pour l'instant, on n'a pas de résultats globaux. C'est en cours.
D'accord.
Et comme autre menace, je dirais, c'est le risque, c'est une baisse du bénévolat. Et qui, selon les études du CNRS, du jour au lendemain, si on arrête ces protections au niveau national, en à peu près 15 ans, on observerait la disparition quasi totale de cette espèce sur le territoire.
D'accord. Donc une espèce qui a pour le coup vraiment besoin de l'aide.
Elle a besoin d'une aide et d'un renfort. Ce qui nous manque actuellement, c'est une certaine prise en charge par l'État. Ce qu'on demande, c'est un plan national d'action qui est demandé déjà depuis de nombreuses années au niveau national, au niveau du réseau Busard, pour avoir des financements, mettre en place une organisation. Pour prendre un exemple, grâce à l'appui des scientifiques du CNRS, on sait aujourd'hui où sont les principales populations de France sur lesquelles il faut intervenir. Mais sur place, il n'y a pas forcément les bénévoles pour intervenir et suivre ces populations. Donc si on n'a pas une aide dans le cadre d'un plan national d'action, ces cartes, ces analyses qu'ont fait le CNRS, elles restent un peu au point mort.
D'accord. Donc besoin de mobilisation, de formation et de moyens humains et financiers.
Exactement.
Et pour le cas de la Lozère, du coup, on peut lancer un appel à toute personne intéressée pour participer à ce plan et à ces actions-là, manière de mieux connaître l'animal, donc de se former et en même temps d'agir à son échelle.
Voilà, il faut. On va essayer de progresser dans ce domaine en faisant plus de sensibilisation, d'organiser des sortes de petits stages, de présentation de cette espèce, comment des personnes qui auraient un peu de temps libre pourraient nous aider.
D'accord. Ben voilà, l'appel est lancé. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter l'ALEP. Merci Jean-Luc.
Merci
pour toutes ces informations précieuses. Et puis, on vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique nature.
Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de la lettre.